Bonjour à tous et bienvenue sur JDG Radio. Mayol nous a donné les clés. On verra à la fin de l'émission si c'était une bonne idée ou pas. Vous nous direz, vous nous ferez savoir si vous pensez que c'était un outrage ou si c'était une édition réussie. J'ai la chance, l'honneur et le privilège de vous accompagner avec notre grand spécialiste de l'obstacle, Christopher Gamiche. Bonjour Christopher.
Bonjour, bonjour à tous.
Et avec Il Mago di Milano, il signore Franco Raimondi.
Bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, on a un petit peu de tout au sommaire. En deuxième partie d'émission, on aura un entretien avec Jérôme Régnier en direct de Dubaï où il présente Facteur Cheval au meilleur niveau sur 1800 mètres. Donc ça va être très intéressant. On va commencer par un petit peu d'obstacles avec Christopher qui, il n'y a pas si longtemps que ça, était à Cheltenham. Alors voilà, je voulais un petit peu, Christopher, votre sentiment sur l'édition 2024 du plus grand festival d'obstacles au monde.
Côté public, c'était un peu plus calme que d'habitude, mais ça se remarque depuis 2-3 ans, hormis des grands gagnants du style Galopin des Champs ou alors côté jockey Rachel Blackmore, il y a eu des ovations qui étaient un peu plus timides, on va dire, par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé. On peut dire qu'il y a eu une baisse de l'affluence, même si nous, ça laisse des chiffres qui sont quand même, qui nous laissent un peu rêveurs avec les 230 000 spectateurs sur l'ensemble du festival. C'est moins que les 282 000 qu'il y a eu en 2022. Bon, ça, plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça, notamment les tarifs qui sont quand même très chers, ne serait-ce que pour aller sur l'hippodrome, mais aussi pour se loger, parce que faut pas oublier que nos amis habitants de Cheltenham gonflent sérieusement les prix pour pouvoir se loger durant le festival. Après, côté sportif, on a eu la domination de Willie Mullins. Bon, c'était attendu, c'était prévisible. De toute façon, maintenant, en Angleterre, hormis Nicky Anderson, qui arrive un peu à le contrer sur Cheltenham, Paul Nicholls se concentre essentiellement sur Entry. Donc, si les chevaux de Nicky Anderson sont malades, comme ce qui est arrivé, et notamment plusieurs belles chances, bah, Constitution Hill, on a eu aussi Sir Gino, enfin, beaucoup de forfaits marquants. Forcément, quand Nicky Anderson tousse, c'est un peu tout l'obstacle anglais qui tousse derrière lui. Donc, sur ce, bah, Willie Mullins a écrasé le festival avec, comme on pouvait s'y attendre, avec des champions comme Stateman, bah, avec Galopin des Champs, qui a été monté en grande confiance par son jockey, parce qu'il a quand même fait tous les boulevards, et malgré ça, il a gagné facilement. En fait, quasiment tous les champions de Willie Mullins ont performé, Losimos aussi, et il y a eu sa centième victoire avec Jasmine Vaux dans le Champion Bumper, qui, clin d'œil, était un FR pour Willie Mullins, qui a mis quand même si souvent l'élevage français en valeur, et qui était monté par son fils Patrick. Donc le symbole était assez beau. Après, il a été aussi un peu victime d'une, je dirais pas d'une cabale, mais de certaines attaques comme quoi il détruisait le festival, il détruisait l'obstacle anglais. Mais bon, en reprenant un peu l'histoire du festival, il y avait à peu près une trentaine d'années, c'était aussi les Anglais qui gagnaient tout et les Irlandais qui gagnaient rien parce que les Anglais avaient des meilleures allocations. Donc là, c'est un peu la roue qui a tourné.
Mais c'est un peu un petit peu comme tous, on est très content quand les autres viennent mais qu'ils ne nous battent pas. Et on est
Oui,
dégoûté quand
voilà.
les Anglais sont dégoûtés quand les autres viennent et qu'ils leur mettent la pilée parce que.
Exactement, exactement. Mais c'est un peu quand on voit ce que dit Richard Newland sur le fait qu'il faudrait qu'il y ait plus de chevaux, enfin limiter l'aspect irlandais, qu'il y ait moins de chevaux d'Irlande qui viennent, voire carrément pas dans certaines courses. C'est un peu comme si en Ligue des Champions, on disait bah non, faut pas qu'il y ait le Real Madrid ou Manchester City ou d'autres clubs anglais parce qu'ils gagnent tout. Ou qu'en Italie, il n'y a pas l'Inter ou le Milan ou la Juve qui participent au championnat parce qu'ils gagnent tout. Donc c'est un peu contre l'esprit sportif.
Enfin, je veux dire, ça fait quand même pas mal mal, on va dire, à l'honneur, à l'ego, on va dire, d'une partie de la gentry hippique anglaise qui est très tournée obstacle, parce que Mullins, en fonction du résultat du Grand National, pourrait potentiellement être tête de liste des entraîneurs aussi. Bon, en Irlande, normal, c'est normal, mais en Angleterre aussi. Donc ça serait quand même un
Oui.
truc qui serait assez douloureux pour eux, quoi.
Oui, ça a failli arriver, je crois, il y a quelques saisons, notamment à l'époque où il y avait Vautour. Et il me semble que la dernière fois que c'est arrivé, c'était Vincent O'Brien qui avait été tête de liste en obstacle, à la fois en Angleterre et en Irlande, en étant basé en Irlande. Donc, c'est dire la performance de succéder un tel entraîneur. Et c'est vrai que ça serait particulier parce que d'ailleurs, autre cas de figure et qui fait un peu peur pour l'obstacle anglais, c'est que quand on regarde cette année, le Grand National va être limité à 34 partants. Et sur les 34, il me semble qu'à l'heure actuelle, il n'y a que 5 chevaux entraînés en Angleterre. Donc c'est quand même un peu
Hier,
inquiétant.
ils ont perdu deux dans la nuit parce que hier ils étaient sept, mais même, enfin, c'est hyper douloureux. Mais et on voit même que Dan Skelton fait un peu sensation en gagnant deux handicaps ou trois handicaps dans un meeting. Mais c'est ultra cruel ce qui se passe pour.
Et ce qui est particulier, c'est qu'en fait, il y a les mêmes Kazakhs, enfin Joe Donnelly, mais aussi des chevaux en Angleterre, bon, essentiellement chez Nicky Anderson, John McManus, Patrick McManus, mais aussi des chevaux en Angleterre. Mais on a l'impression que oui, c'est plus vraiment les premiers couteaux qui arrivent dans les boxes anglaises, sauf exception. Donc, et c'est vrai que Dan Skelton a fait sensation. D'ailleurs, il était chaleureusement applaudi quand il a gagné, parce qu'il a un peu délivré l'Angleterre après une journée de disette. Et bon, il a gagné deux handicaps, il a gagné également un groupe 1, donc c'est vrai qu'il a fait sensation. Donc, et c'est dommage parce que l'Angleterre a quand même encore des bons chevaux. Bon, on me l'a dit, il y a Nicky Anderson qui a eu ses chevaux malades, mais il y a aussi Paul Nicholls qui à Aintree va sûrement avoir de très bons chevaux, notamment Calife du Berlay, le cheval le 4 ans qui va courir le groupe 1, la grande course des 4 ans d'Aintree. Donc il y a quand même encore du beau matériel, mais maintenant, par peur de prendre une dérouillée par les Irlandais, on se rabat sur Entry.
Et on passe de Cheltenham à Auteuil très rapidement. Il y avait une très belle réunion ce week-end à Auteuil. Quels sont les points essentiels à retenir, Christopher?
Bah, c'est que Losange Bleu, on craignait avec l'absence de Telem de pas avoir de solide dire. On pouvait craindre seulement en se rappelant pas qu'on avait Losange Bleu, parce que c'est vrai que c'est un cheval qui a été quand même assez impressionnant. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a un peu un effet miroir entre le steeple et les haies. Parce que l'an dernier, on avait parmi les meilleurs 4 ans Runtos Ganamos et Jazz Manouche. Les deux ont gagné une préparatoire au grand steeple. Donc Runtos Ganamos a gagné le Troyton vraiment de manière très très convaincante. Et pour le moment, en attendant de voir les Français, il est sûrement haut de la pile pour le Grand Steeplechase de Paris, avec Jazz Manouche qui a également gagné et qui avait gagné son groupe à 4 ans. Et donc on a un effet miroir parce que sur les deux meilleurs 4 ans du Renaud du Vivier qui ont fini premier deuxième, ont fini premier deuxième aussi du prix Hypothèse dimanche dernier. Losange Bleu, avec sa tactique de prédilection en allant devant et en durcissant de bonne heure, et July Flower qui elle a fini deuxième de plaisante façon. Ils ont quand même laissé les autres à 10 longueurs et plus, donc ça semble deux solides atouts. Bon, derrière on a aussi Irish Vocation qui a traîné une nouvelle couleur du monde du trot, Bivans, qui est géré par il me semble quelqu'un qu'on connaît beaucoup dans le monde du trot, Gaetano Pezzone,
Italien.
voilà, qui est lié à FaceTime Bourbon, et donc il me semble que c'est la première apparition des couleurs en obstacle, avec un cheval qui a cessé de progresser la saison dernière, qui est aussi intéressant pour la grande course de haie. Et derrière, on avait aussi Ami du Kiff qui faisait sa rentrée et qui pourrait éventuellement aller sur la grande course de haie ou sur le grand steeple, et qui est pas non plus n'importe qui comme cheval, donc c'est assez solide en attendant de savoir ce que Willie Mullins nous ramènera pour le week-end du grand steeple, parce qu'on sait que la grande course de haie, c'est un peu une épreuve dans laquelle il a eu souvent de la réussite. Ça s'apparente quand même beaucoup aussi à un steeple de chez eux, puisque c'est des obstacles qui sont similaires. Il va sûrement aussi nous amener quelques chevaux. Faudra voir lesquels, parce qu'évidemment, on peut venir avec des seconds couteaux pour espérer battre Losange Bleu.
Et c'est un petit peu une apogée là pour Dominique Bressoux. Dominique Bressoux, souvent il a eu un très bon cheval mais là il a quand même on a le sentiment plus de talent au même moment dans son effectif.
Oui, il a eu Milord Thomas, il a eu, enfin, ça, il a eu aussi Gallo Marin qui était quand même, il a sorti quand même quelques cracks ces derniers temps. Et là, quand on voit ses résultats cette année en 2024, si on fait les calculs, il a à peu près une dizaine de chevaux Black Type qui ont fait des résultats. Et en plus de Losange Bleu, potentiellement Alcyone Rouge qui pourrait courir aussi le Grand Steeple qui a gagné le prix irlandais dimanche dernier à Auteuil. et qui va aller sur le prix William Elkhead le 16 avril avant éventuellement de courir le grand steeple. Donc, et là aussi, Losange vert et bleu chez les 4 ans, Kind of Lee, toujours chez les 4 ans, donc il y a une belle répartition. Et on a vu Kirakin qui a débuté en finissant deuxième du prix Auricula. Donc il a une belle ventilation de chevaux, aussi bien de chevaux d'âge que de jeunes chevaux, quoi. Donc il est, je dirais que c'est un peu égal à lui-même, quoi, toujours des bons résultats.
Et c'est vrai que bah, la régularité aidant, maintenant on a le sentiment que il avait déjà des très belles casaques avant, mais qu'il a peut-être plus de. Une la plus large palette de talents, c'est ça que je voulais dire un petit peu.
Peut-être cette année plus ventilée avec aussi des bons chevaux dans toutes les catégories, ce qui est toujours important d'avoir, de ne pas avoir seulement certaines catégories. Donc, et ce qu'il faut retenir aussi de dimanche, la première victoire de l'Istead de Régis Midelin en tant qu'entraîneur cette fois, parce que c'est quand même il a été un de nos meilleurs jockeys d'obstacles. On l'a vu chez Marcel Roland et chez François-Marie Cottin pendant des années, donc qui réussissent à gagner sa première listed après à peu près, on va dire, 1 an et demi, 2 ans d'installation. C'est assez beau, et pour une nouvelle casaque en plus, enfin une nouvelle casaque, un nouveau propriétaire, mais une casaque plutôt ancienne, c'est assez beau pour un jeune entraîneur qui lui aussi est installé du coup en région parisienne, en Île-de-France.
Et c'est vrai que moi j'avais après la course j'ai un peu parlé par SMS avec Andrew Peak et qui était enfin ultra ravi quoi. Il est ultra et qui est vraiment ravi de comment ça se passe avec cet entraîneur-là et vraiment ravi de son aventure française. Et il se trouve que dans la même idée, j'ai parlé avec hier avec un courtier Racing Manager assez célèbre dans le plat et l'obstacle en Angleterre. Et il me disait que si l'obstacle anglais fonctionnait bien, il y aurait régulièrement des grands entraîneurs anglais et pas que des Irlandais qui viendraient courir à Auteuil, parce que ça serait dans le meilleur intérêt de leurs clients, mais que l'obstacle anglais est dans une telle situation de défense et de perte de confiance qu'ils viennent plus jamais courir ou rarement, alors que la France est très proche du sud de l'Angleterre, Auteuil en particulier. Et vu les allocations qu'il y a pour les courses à Auteuil, ça fait aucun sens, si vous voulez défendre le meilleur intérêt de propriétaire, de pas venir plus courir plus souvent en France. Mais en fait, le problème qu'il y a, c'est que ils préfèrent ces entraîneurs anglais gagner un gros handicap ou je sais pas quoi en Angleterre et faire du relationnel et être dans le Racing Post et tout, que certains parfois défendent l'intérêt de leurs clients, rentrer des allocations d'un courir à Auteuil. En sachant qu'il y aura une retombée médiatique et relationnelle moins forte pour eux. C'est un petit peu dommage pour les propriétaires anglais. C'est un petit peu dommage aussi pour la compétition. Et je pense que c'est toujours sympa quand à Auteuil on voit des chevaux anglais, irlandais, éventuellement tchèques ou italiens courir. Enfin, ça rajoute du piment. Et je comprends en fait, je sais pas ce que vous en pensez, Christopher, mais un peu la. C'est vrai que tout le monde adore Mullins, mais quand Mullins, par exemple, à Cheltenham, gagne tout, je dirais pas que c'est lassant, mais quand il y a de la diversité, c'est plus marrant, quoi. Enfin, je veux dire, c'est sympa quand il y a une plus large palette d'entraîneurs qui gagnent des courses, quoi.
Bah, c'est vrai que après il y a le souci aussi qu'Entry arrive un mois après, donc ça laisse une opportunité. Alors est-ce que bon, ça ferait monter ça ferait monter les Anglais au rideau que je dise ça, mais est-ce qu'il faudrait pas revoir la position d'Entry pour que ce soit plus vraiment l'alternative bis, et que les Anglais soient vraiment obligés de courir à Cheltenham pour terminer leur année, ou revoir la position de Cheltenham, je sais pas, mais il y a sûrement quelque chose à faire pour éviter qu'ils se défilent et qu'on ait vraiment des matchs, parce que quand j'ai commencé à aller à Cheltenham, il y avait quand même des matchs régulièrement, et là, cette année, ça a vraiment tourné à l'humiliation 100% Willie Mullins. C'est bon, après c'est comme dans tout sport, hein. On voit en F1 une domination d'une écurie qui dure pendant 5-10 ans, et après on passe à une autre écurie, et dans le football, dans tous les sports, il y a une domination qui peut durer un certain cycle, mais là c'est pas que la domination, c'est surtout qu'en face on se dit qu'on a l'alternative de briller à Entry, de contenter ses propriétaires, et après avoir des ordres d'achat pour la saison suivante et tourner comme ça, mais c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à revoir à ce niveau-là.
Et donc, qui dit Cheltenham dit passage de témoin, entre guillemets, avec arrivée du plat un peu partout, qui reprend le gazon. Et donc, cet après-midi, je vous suggère fortement de lire le journal ce soir parce qu'il y a quand même des super chevaux en piste Saint-Cloud, des espoirs pour les classiques. Mais notre regard, il est quand même vraiment tourné vers la fin de semaine, samedi à Médan avec la Réunion, la Dubai World Cup, où il y a probablement plus de Français que les années précédentes ou du moins l'année précédente. Et Franco, qui suit l'international avec passion et talent et expertise, qu'est-ce que ça vous inspire, Franco, qui est sept Français engagés dans ces quand même très très belles épreuves à Médan?
Oui, bon, il faut dire avant tout qu'ils ne sont pas les vrais premiers plans qui sont là-bas. Des chevaux qui ont des chances régulières dans leur course, mais ça reste quand même très important. Et de plus, la France a toujours eu une bonne réussite dans les meetings de la Dubai World Cup. Ça, c'est vraiment très important. Et c'est important d'être là, puisque cette année, c'est vraiment une année très internationale, avec, comme d'habitude, disons, la charge des Japonais. Mais il y a aussi des chevaux de Hong Kong qui sont très intéressants à voir, en plus le reste d'Europe. C'est un peu décevant, si vous voulez, la Dubai World Cup. Mais la Dubai World Cup, disons, la chose importante, c'est une course qui est née comme un match entre Godolphin et les champions américains de l'année sur le dirt. Là, il y a un gros problème. Le dernier vrai grand champion américain sur le dirt a été Harrogate en 2017 et Godolphin, pour la deuxième année consécutive, n'a pas un partant dans la World Cup. Donc, cela fait un peu tomber l'intérêt de la World Cup, alors qu'on a les autres courses qui sont des super très hauts niveaux. Il y a notamment le schéma classique sur 2400 mètres, où il y a Jumbo pour la France. Qui est peut-être une course unique, puisqu'on a les meilleurs chevaux restés à l'entraînement en Europe, qui c'est Auguste Rodin. Et il y a une super jument japonaise comme Liberty Island. Donc, je ne crois pas qu'ils vont se rencontrer d'autres fois dans leur carrière. Et là, c'est assez unique comme course. Cela dit, ça reste une réunion magnifique. Et dans la World Cup même, il y a un peu un goût ancien, puisqu'on a deux chevaux qu'il faut suivre. Un, c'est le héros du Kazakhstan, Kabir Khan, et l'autre, c'est Laurel River, qui est entraîné à Dubaï par Bupat Simar. C'est un cheval qui était disparu de radar il y a 2 ans. Il a fait une rentrée exceptionnelle. Donc, ça peut être tout ou rien. Je trouve que c'est une magnifique journée avec des Français qui ont des chances. Et voilà, on va voir.
Et dans la Dubai Gold Cup, il y a trois Français. Ils sont un peu délaissés au betting chez les bookmakers. Je crois que le premier, c'est Al-Nahir qui a 25 contre 1. Sauber, 25 contre 1. Sevenas Knight, 33 contre 1. Est-ce que vous pensez que c'est un déplacement un petit peu trop ambitieux ou ils ont vraiment...
Et non, c'est une course où la France a eu beaucoup de succès. Bon, c'est surtout pour notre ami Vazir Abad qui l'a gagné 3 fois. Mais quand même, c'est la course plus simple à tenter pour les Français. Et je trouve que c'est jouable. Il n'y a pas un vrai cheval qui tue la course. Il y a plusieurs bons chevaux disons de longue distance, mais pas les Kyprios du jour. Donc, ils ont tous, ils ont leur chance dans cette course-là. C'est pas impossible.
Et dans la Dubai Turf, donc sur 1800 mètres, facteur cheval, il s'attaque aussi à un sacré lot. Enfin, hein, c'est un lot qui est assez impressionnant, quoi.
Oui, mais ça reste jouable. Là aussi, il n'y a pas un cheval qui vraiment qui tue la course à l'avance. On peut penser à Lord Nord qui peut la gagner pour 4 fois. Il y a une jument exceptionnelle comme Nashua, mais je trouve ça ouvert. Probablement, il ne va pas trouver les terrains souples ou lourds qui l'affectionnent, mais c'est un cheval qui a eu une saison l'année dernière sur la montante. Je crois que 1800 mètres, c'est un peu sur mesure, puisqu'il coupe c'est une distance, comme dit toujours Jean-Claude Rouget, bâtarde, mais ça coupe les jambes au vrai Miller, et c'est un peu courte pour les chevaux des 2000 mètres. Donc là, il est bien engagé, même si le terrain ne sera pas comme il aime, il faut toujours savoir que les gazons de Dubaï, c'est un gazon un peu gras, un peu haut, et qui allonge un peu les distances. Donc, j'ai dit toujours, pourquoi pas pour une place. Voilà.
Je suis un petit peu surpris de voir que le japonais Dodouche, il est favori à 3 contre 1 parce que ça fait un
Oui,
moment
mais
qu'il est raccourci, quoi.
voilà, il raccourcit ça. Ça, c'est un danger. Je crois qu'il raccourcit. À bon sens, puisque 2400 mètres, il peut pas battre Liberty Island. Et là, ils ont cherché un engagement plus facile comme adversaire que d'aller contre Liberty Island et Auguste Rodin. Ça, c'est la raison. Lui, il n'est pas vraiment un Miller. Donc, on va voir comme il va se comporter, mais c'est pas vraiment sur sa distance.
Et dans l'Alco Sprint, Kingold, il va essayer de créer la surprise. Je vois, il a 66 contre 1. Mais sur le sprint, on le sait, tout est possible.
Dans l'esprit, tout est possible. La chose qu'on a notée cette année tout au long du carnaval sont les 3 ans qui sont très compétitifs, même si on est très tôt dans la saison. C'est un peu spécial. Il y a une grosse décharge au poids pour les deux pouliches qui sont là, c'est-à-dire Frost at Dawn et la Godolphin Star of Mystery. Alors que les niveaux de sprinter d'âge en Europe n'est pas exceptionnel. Et il y a le cheval de Hong Kong, California Spangle, qui n'est pas un vrai sprinter. C'est plutôt un Miller raccourci. Donc, on verra bien qu'est-ce qui se passe. Mais c'est, disons, assez spécial d'avoir à ce point de la saison deux pouliches de 3 ans qui sont parmi les favorites d'une course face au sprinter d'âge.
Bon. Et donc le septième français à courir dans la Grande Réunion, ça sera Hadid Carrer, qui est un pensionnaire de Thomas Forcy dans la grande course des Purs Sans Rab, la Dubai Kayla Classic. C'est un super cheval, très très bon 3 ans, c'est un cheval assez impressionnant physiquement, mais je crois que Il y a 2 ans, quand il a gagné cette course-là, il a un peu laissé son. Ça lui a un peu coupé les jambes parce qu'il a eu un combat très très dur pour venir à bout d'un Saoudien. Je crois que c'est d'ailleurs un des seuls chevaux à avoir battu ce Saoudien. C'était une très très belle victoire. Et on a Hadid Carrer, il a eu un peu de mal à se retrouver. Et ça va être quand même un petit peu un test parce que les Saoudiens sont imbattables chez eux. Là, les deux bons Saoudiens font le déplacement. On va voir s'ils sont aussi bons et aussi rapides en dehors de leur base. Ça va être très intéressant. Voilà. Moi, je pense que pour tout l'entourage d'Hadid Carrer, ça serait top de
Non,
le
mais
voir.
les grands favoris à Aspen Al-Khalidia, on dirait qu'il c'est Ribaud. Il est invaincu, il gagne toujours par 6 longueurs. J'ai vu son rating 128. Il est largement le rating plus haut de la Réunion, même si c'était un pur sang-arabe. Et voilà, invaincu, il a toujours dominé, donc c'est intéressant à voir.
Moi, je demande voilà, à le voir dans des conditions différentes et pas en Arabie Saoudite, de le voir dans un autre pays. Et je pense que ça peut changer pas mal de choses. Donc, ça sera intéressant, même si, effectivement, face à lui, il n'a pas un cheval comment dire, local qui semble un monstre sur le dirt, quoi. Il y a plusieurs chevaux qui sont très, très, des très bons chevaux de gazon face à lui.
Les dirt des Meydan n'est pas les dirt de Riyad, sont deux surfaces complètement différentes. Donc, il faut voir s'ils s'adaptent, les Asfana Al-Khalidia. Sinon, c'est ouvert.
Je vous remercie infiniment tous les deux pour votre expertise, votre temps et votre enthousiasme. Et à présent, on va donner la parole à Jérôme Régnier qui va nous parler en direct depuis Dubaï. Merci beaucoup, Jérôme Régnier, de nous accorder de votre temps pendant ce voyage plein d'aventures à Médan. Est-ce que vous avez bien voyagé? Est-ce que votre champion a bien voyagé aussi?
Ouais, non, tout va bien. C'est vrai que c'était un premier long voyage pour lui. Il est parti de Calas mercredi matin. Il a pu s'entraîner jeudi et vendredi sur les pistes de Chantilly. Vendredi soir, il a pris l'avion et il est resté en main le samedi. Et après, il a pu gentiment faire un petit trotting sur une petite piste le dimanche et il a pu commencer à s'entraîner hier matin où il a fait un tout petit galop de chasse et aujourd'hui il est allé sur la piste principale en dirt et il a fait un petit canter et on va le maintenir comme ça et le monter gentiment en condition jusqu'à samedi.
Je trouve assez fascinant dans l'histoire de Facteur Cheval, c'est que il y a plusieurs aspects. La première chose, c'est que il vous a été amené par quelqu'un qui a été un client fidèle, Hubert Honoré. Et ensuite, c'était un cheval qui était pas très simple, on va dire. Donc, c'est un peu aussi la victoire de votre équipe et de vous-même de l'avoir amené à ce niveau-là, parce que il n'est pas venu avec le mode d'emploi, quoi.
Ouais, à la fois tout a été un peu compliqué pour tout le monde et à la fois tout a été une très belle histoire et aventure, dans le sens où bah, ça part d'un Pinouk où ils essayent d'acheter un foal assez cher avec un budget assez conséquent. Ils tombent sur ce poulain-là qui leur tape à l'œil. Ils essayent de le passer yearling, mais il y a un contretemps et ils ne sont pas en mesure de le vendre. Ils essayent de le représenter à une brise-up, mais il y a un nouveau contretemps et ils ne sont encore pas en mesure de le vendre. Donc, la seule porte de sortie, hein, entre guillemets, c'était d'essayer de l'exploiter. Donc là, Hubert m'appelle, me fait part du projet. Moi, j'ai grincé un peu des dents dans le sens où je sentais que c'était une patate chaude et que le projet de déjà de retomber sur ses pattes financièrement était assez compliqué. C'était vraiment un cheval qui a un lourd passé dans mes aventures. Et j'avais peur que ce cheval soit un peu noir et qu'on ne puisse pas arriver à en faire quelque chose. C'est vrai qu'il montrait. Jennifer Pardano, du de l'écurie de la Freinet, son équipe s'en est très bien occupée, malgré ses difficultés de jeune cheval, puisque je pense que c'était plus de l'immaturité qu'autre chose. Il s'est quand même bien fait à sa routine. Il est arrivé avec pas mal de travail et. Et il a tout de suite intégré les lots en fin d'année de 2 ans. Il avait été castré, il n'y avait plus qu'à aller de l'avant en quelque sorte. Mais les courses de fin d'année arrivaient un peu trop tôt, donc on s'était dit qu'on allait certainement l'amener pour Cagnes. Et puis, dans les derniers préparatifs, il était venu le moment de l'amener dans les boîtes de départ. Et ben là, il m'a envoyé 2 personnes à l'hôpital quand même, puisqu'il était très compliqué. Alors, je pensais pouvoir y arriver, mais j'ai complètement abdiqué, puisqu'il était claustrophobe, il restait pas en place. Dès qu'on fermait devant lui, il se sentait pas bien dans la stalle de départ. Donc, il a dû falloir couper court à sa préparation, l'amener chez Monsieur Blondeau, qui a fait un travail remarquable, qui l'a gardé un peu plus d'une semaine, 10 jours. Et qui l'a mis en confiance, qui a passé beaucoup de temps avec, et il me l'a donné, et il m'a dit, surtout n'essayez pas de le repasser aux boîtes le matin, amenez-le aux courses comme ça, vous inquiétez pas, avec la couverture, en fait c'est le fait que ses flancs touchent les boîtes, il se sentait un peu oppressé, alors que dans un camion, pas du tout, mais c'est son influx et sa bêtise qui faisait qu'il était un peu incontrôlable, et qu'il était dangereux pour lui-même et pour ses cavaliers. Donc, on a repris une préparation en cours de route courant février-mars et il a pu débuter tout de suite en région parisienne parce qu'on connaissait son potentiel. Bon, une partie de son potentiel en l'occurrence, mais on voulait surtout qu'il soit encadré par la meilleure équipe qui puisse le gérer aux boîtes, c'est-à-dire le GTHP qui ont l'habitude de chevaux un peu problématiques. Donc, il a été monté par Gérald Mossé pour sa première sortie, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a fortement écouté les conseils d'avant-course et il a été très bien encadré par le personnel du GTHP et tout s'est bien passé dès sa première. On connaît la suite, il débute, il gagne en marquant les esprits dans une course inédite. Et derrière, on reçoit des offres intéressantes et qui font retomber sur leurs pattes tout son entourage, avec certains du coup qui étaient vendeurs pour récupérer leurs billes et d'autres qui voulaient continuer l'aventure. Mais Team Valor, associé à Gary Barber, se sont portés acquéreurs du cheval à l'amiable et tout est allé très très vite. Je crois qu'il a couru le mardi et le mardi suivant. Tout avait été fait, la visite véto, le virement bancaire, et il avait changé de couleur en l'espace d'une semaine. C'était assez incroyable la réactivité. Et Barry Irwin, depuis ce temps-là, est mon interlocuteur principal et me suit dans mes idées. On communique beaucoup et on a fait une très belle carrière par la suite. Il m'a laissé carte blanche pour essayer d'éviter des combats trop durs, trop vite dans sa jeune carrière. C'est pour ça qu'on l'a couru 2 fois à Lyon dans une C2, une C1 pour le garder pas loin de la maison et lui donner des courses faciles. Puis derrière, il a couru la Listade le prix de Saint-Patrick de mémoire à Chantilly. Il est resté invaincu au terme de ses 4 premières sorties. Ça, c'était en bon terrain. Il avait fait une très belle fin de course. Donc, et son premier échec, il l'a essuyé à Deauville dans son premier groupe. Et voilà, c'était une très très belle aventure.
C'est génial parce que, enfin, je dirais, Barry Irwin, vous étiez fait pour vous rencontrer, quoi. Je veux dire, c'est un peu une légende des courses. Barry Irwin, c'est quelqu'un qui a fait des choses incroyables dans sa vie de racing manager. Enfin, il a aussi élevé un gagnant de Kentucky Derby. Enfin, c'est quelqu'un qui est passionné, enfin, qui connaît déjà vachement bien les courses et les chevaux à l'entraînement et qui aussi est vraiment quelqu'un qui est très dirigé. Il adore les chiffres et tout ça. Et je pense que vous avez vraiment le profil de l'entraîneur pour lui, c'est quand même, je suis sûr, enfin, vos discussions doivent être passionnantes parce que c'est quelqu'un qui doit adorer éplucher les engagements et voyager, puis les défis, tout ça. Ça doit être. Je comprends pourquoi le tandem fonctionne, quoi, parce que vous avez vraiment les profils qui matchent.
Ouais, après, il est entouré, il doit rendre des comptes certainement, et il est entouré de personnes comme Gary Barber qui ont pas peur de tenter des paris. Moi, après disparant l'année dernière à 4 ans, je voyais qu'une course possible et imaginable au programme, c'était les Sussex. Mais voilà, il a fallu être assez convaincant puisque Sur le coup, c'était se confronter à la crème des milers anglais, aller chez eux, sur un hippodrome assez particulier comme Goodwood. Bon, ce jour-là, on a eu certainement l'avantage beaucoup de pluie et un terrain très très souple qui a desservi peut-être certains chevaux, qui ont fait changer les plans de certains bons chevaux. On est quand même tombé sur Paddington, mais on avait un cheval qui a fait un premier voyage en dehors de France et qui s'est super bien comporté. Et ça m'a donné l'envie de tabler sur les Queen Elizabeth en fin d'année, comme objectif de fin d'année, avec entre-temps une participation au Moulin. Et à chaque fois, il s'est super bien comporté. Il nous déçoit jamais et il est toujours là à répondre présent. Et c'est malgré qu'il n'ait pas passé le poteau en tête à l'âge de 4 ans l'an dernier, toutes ses perfs, il n'est jamais descendu du podium et toutes ses perfs ont été plus qu'intéressantes. Et s'il n'avait pas été un peu malheureux dans l'Hisparan, la seule victoire qui lui a un peu échappé, c'est cette course-là, où d'ailleurs Gérald a en quelque sorte un peu perdu le cheval par rapport à ce manque de chance. Et bah, s'il avait eu une seule victoire de groupe 1 aujourd'hui à son actif, ça serait 1800 mètres en bon terrain. Et c'est ce qu'il va retrouver ce samedi à Maidan.
Est-ce que vous pensez que à répétition, c'est un cheval qui a été totalement sous-estimé? Je vois là, il est à 20 contre 1 chez les boucs. Est-ce que vous pensez qu'il est sous-estimé un petit peu par les étrangers et que dans les conditions de Médan, il est vraiment pour une fois, il a vraiment les conditions optimum pour livrer sa meilleure performance?
Qu'il peut être catalogué comme un cheval de terrain lourd uniquement. Après, nous on le préfère corde à gauche puisqu'il a une vraie faculté d'accélération sur la jambe droite et on l'avait retenu en partant, il s'était un peu battu avec. Tribaliste était allé devant, il fallait aller le chercher, c'était compliqué, mais il a quand même fait une ligne droite assez remarquable ce jour-là. Donc, moi je pense que 1800 mètres c'est un bon compromis. Il y a beaucoup de partants, il va y avoir énormément de rythme. Donc, il sera certainement dans son rythme, il ne va pas consommer, il ne va pas tirer. Et comme je l'ai toujours dit, c'est un cheval qui n'a jamais marqué le pas pour finir, il a toujours fini en avançant. Donc, ça nous pousse peut-être à le rallonger de trop, mais 18-2000, avec la maturité qu'il a maintenant, il sera certainement en mesure de très bien les faire tant qu'il y a du rythme. Donc, c'est pour ça qu'on l'a engagé à Hong Kong à la fin avril. En fonction du résultat et de sa faculté de récupération, il y a un plan B au niveau logistique qui a été mis en place de laisser le cheval ici à Dubaï tout le mois d'avril pour courir à Hong Kong et sans le ramener en France. Donc ça, c'est une hypothèse. Si jamais il venait à très bien se comporter à ce niveau-là et à bien récupérer, mais c'est pas interdit de peut-être tenter le coup.
Et moi, je me souviens assez distinctement, il y a quelques années, il y a peut-être 5 ans maintenant, la fois où vous avez gagné votre premier groupe à l'étranger, c'était au Qatar, avec Mariana Foot, si je ne me trompe pas. Et est-ce que ça a été un moment décisif dans votre carrière? Est-ce que ça a changé pas mal de choses pour vous, cette tentative? Parce que sur le coup, avant le coup, ça paraissait assez courageux et c'était quand même un coup un peu de maître, quoi. Ça avait eu un certain retentissement, quoi.
Ouais, non, c'est certain que j'essayais de trouver un peu d'exotisme en période hivernale un peu creuse. J'avais un cheval comme Royal Julius qui courait aussi l'Amir Trophy et qui avait fait une performance magnifique aussi en terminant deuxième ce jour-là. Tout s'y prêtait, j'ai toujours aimé les voyages. C'est Royal Julius qui m'avait apporté ma première victoire en tant que cheval de groupe en Italie. Derrière, on s'était fait plaisir à tenter les Prince of Wales à Royal Ascot. C'est que des expériences qui sont enrichissantes. Des fois, on se trompe et on apprend de nos erreurs. Et des fois, les planètes veulent bien s'aligner et on réussit nos paris. On a retenté l'expérience avec Mariana Foot l'année suivante et malheureusement, il a eu un parcours un peu exécrable et il a échoué du minimum face à Stunning Spirit. Mais c'est sûr que il faut toujours pondérer, prendre le bien et le moins bien. On a tenté un déplacement qui s'est pas avéré fructueux à Hong Kong en plein Covid, où c'était très compliqué au niveau logistique, où tout est allé de travers. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à avaler la pilule. Mais il faut rebondir, il faut se poser les bonnes questions et il faut toujours voilà, essayer d'optimiser la carrière des chevaux. Facteur cheval, maintenant, il a 5 ans, il n'a pas les primes en France, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt à le garder en France pour courir un net Mont Blanc avec 40 000 euros gagnants vis-à-vis des propriétaires qui l'ont payé une certaine somme et qui essayent de rêver un peu. Ça fait quand même un peu plus rêver de tenter une course comme le Dubai Turf, aussi bien doté, ou les Queen Elizabeth Cup à Hong Kong, que de le garder en France et de refaire le même programme qu'à l'âge de 4 ans. Mais à 4 ans, je l'estimais pas assez mature pour pouvoir encaisser des déplacements et je me trompe et qu'il aurait très bien fait l'année dernière, mais là, on sent vraiment le cheval serein dans sa tête et physiquement prêt à encaisser des comme ça. Donc, il a eu une préparation optimale. C'est sûr que ça aurait été bien de pouvoir le rentrer dans une course, mais je ne voyais pas l'intérêt d'aller à Chantilly, corde à droite sur le sable et lui faire un aller-retour Marseille-Paris à 3 semaines de la course. C'est pour ça que j'avais envisagé la course, le Prix Cyrus des Aigles à Cagnes-sur-Mer, qui était un peu plus d'un mois avant le Dubai Turf. Mais au vu de la piste, c'était quand même un peu risqué de le présenter sur une piste un peu fatiguée, sans critiquer la piste, mais c'est tout à fait normal quand on fait un meeting et ça ne soit pas un billard. Donc on a eu la chance de pouvoir l'exercer à Marseille-Borély. Et mentalement, je pense que le cheval a pris le camion, il est allé sur un champ de course et il n'a pas pris dur. Et je pense que c'est en partie la clé de sa sérénité ici à Meydan après un long voyage. Grégory, qui le connaît par cœur, le trouve très bien. Bon, bah, c'est de bon augure pour samedi en tout cas.
Et d'un point de vue de stratégique, je veux dire, vous, de votre carrière d'entraîneur, c'est vrai que cette exposition internationale, ça a vachement joué en votre faveur. Je veux dire, vous avez une clientèle aussi internationale maintenant, avec des gens qui ont bien cerné vos points forts et qui vous envoient des chevaux qui jouent beaucoup dans la réussite de votre écurie. Et j'imagine que c'est quand même aussi important. Quand on est entraîneur, d'exister sur la scène internationale, c'est un grand plus parce que c'est l'occasion de montrer aux Kazakhs importants de ce monde que ce dont on est capable. Et c'est vrai que une course comme celle de cette semaine, elle a plus de visibilité que beaucoup de courses en France. C'est quand même toute la planète course va regarder ce qui va se passer cette semaine à Médane.
C'est certain que d'avoir des partants lors de réunions aussi importantes, c'est très bien. C'est au niveau exposition, au niveau médiatique, c'est très bien. Après, il faut pas oublier la centaine de chevaux qui m'attendent à mon retour et qui sont là pour tenir l'écurie. On a fait un très bon début d'année avec déjà 37 victoires. Il faut surtout maintenir ce cap et le plus difficile, c'est d'être constant et de garder les chevaux en bonne santé et les équipes motivées et tout ce travail au quotidien fait qu'on peut avoir des résultats intéressants, constants, optimiser les carrières de course des chevaux et avoir l'appui et le soutien de beaucoup de personnes. Notre force, c'est d'essayer de courir les chevaux, d'avoir des partants pour quand ça ne va pas et qu'ils ne sont pas compétitifs, ben, il faut prendre des décisions. On ne peut pas se permettre de garder des chevaux qui ne sont pas compétitifs parce qu'on est assez limité en termes d'accueil. Donc, on essaye un peu de faire plus de qualitatif plutôt que de quantitatif. Et c'est un peu la clé pour essayer d'avoir une écurie qui tourne, qui a des partants et des résultats aux courses. Et c'est très important quand un cheval, ça ne va pas, de faire un break ou de pas continuer l'aventure si il n'est pas compétitif. Donc, c'est ça qui fait avancer une écurie, c'est d'essayer d'avoir continuellement du renouveau Et les chevaux qui ont une certaine qualité, il faut justement bien viser et faire en sorte de ne pas trop se tromper, puisqu'on n'a pas le droit à l'erreur avec ces chevaux-là qui courent des courses importantes et qui peuvent y laisser des plumes s'ils ne sont pas prêts comme ils le devraient au moment de la course, quoi.
Est-ce que le fait d'avoir gardé un effectif de taille raisonnable, parce que certainement si vous le vouliez, vous auriez la possibilité d'avoir beaucoup plus de chevaux, mais est-ce que le fait d'avoir gardé un effectif raisonnable, c'est une de vos forces? Est-ce que c'est une des choses qui font que vous vous êtes pas dispersé, que vous avez un taux de réussite assez stratosphérique et constant depuis un long moment maintenant?
Ouais, non, je pense que quand on franchit un certain seuil et un certain nombre de chevaux, on ne peut plus trop faire du cas par cas et c'est tout à fait normal. Nous, notre force, c'est qu'on est vraiment très vigilant. On a 100 chevaux, mais c'est divisé en deux entités. Du coup, au lieu d'avoir 4 lots, moi j'en ai 8. Les chevaux ne sortent pas à la même heure des deux écuries et ça me permet de faire des lots de cavaliers, d'une douzaine ou quinzaine de cavaliers. Et on peut quand même avoir un œil très, très précis et on a un suivi peut-être. Ouais, on est plus proche des chevaux que quand on franchit un certain nombre, on a tendance à se transformer un peu en usine. Et c'est assez compliqué à gérer, certainement. Moi, pour l'instant, c'est mon maximum de chevaux que je me permets. Ça se passe très bien comme ça, et comme je l'ai récemment dit, tant que ça se passera de cette manière, je demande pas plus. Après, il faut juste avoir un peu de chance et de tomber sur des jeunes chevaux un peu prometteurs. Comme cette année, on a 3 ans qui restent sur 3 victoires consécutives. On sait pas, alors, on connaît pas véritablement leur niveau, et dans les semaines à venir, on le connaîtra peut-être parce qu'ils auront franchi le seuil de compétitivité. Mais entre Lazat qui est invaincu, Fun with Flags qui est invaincu et Darlinghurst qui reste sur 3 victoires, c'est des 3 ans assez intéressants et ça motive les troupes que d'avoir des chevaux aussi compétitifs au début de leur année de 3 ans, quoi. Donc c'est très très bien.
Il y a quelque chose qui me fascine un petit peu dans votre parcours, c'était votre fidèle client Justin Target qui me le soulignait il n'y a pas très longtemps. C'est le fait que vous n'avez pas été vraiment l'assistant d'un entraîneur particulier, vous avez un peu appris vous-même. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire parce que quand vous aviez repris l'écurie Camacho, si je ne me trompe pas, quelle était votre expérience de l'entraînement avant de vraiment de vous lancer vous-même comme entraîneur particulier?
Quasiment. Parce que pendant le Flying Start, j'ai pas fait des stages pour être entraîneur. Mon dernier stage, qui est un peu le stage décisif dans le Flying Start, c'est celui pour lequel on peut éventuellement postuler une offre d'emploi. Et moi, je l'ai fait à Kildagan pour être nomination et Vendée Saillie, puisque moi, c'était l'aspect élevage et commercial qui me plaisait beaucoup. Moi, je voyais l'entraînement. Un monde assez fermé où ça serait très difficile de pouvoir y rentrer, surtout par la petite porte. Et puis, les choses de la vie sont ainsi faites. Parfois, on maîtrise pas tout et quelque chose m'a fait rentrer dans le sud de la France. C'était mon père, je voulais être à ses côtés. Et du coup, il a fallu trouver quelque chose à faire depuis le sud. Et j'ai voulu être courtier parce que j'adorais cet esprit commercial. Mais c'était très difficile d'en vivre sans une clientèle vraiment sérieuse. Donc, j'avais voulu m'occuper de chevaux au quotidien parce que, en fait, le courtage m'avait éloigné des chevaux à proprement parler. Et moi, ce que j'aime avant tout, c'est d'être à leur contact au quotidien. Donc, j'avais voulu passer ma licence, j'avais réussi ma licence, mais étant donné que je n'avais pas le cursus, c'est-à-dire 2 ans d'assistant d'entraîneur, on m'avait refusé la licence. Et grâce à Patrice Camacho, qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est le cas de le dire, et qui m'a embauché en tant qu'entraîneur, j'ai pu commencer appliquer ce que j'avais vu au sein de la formation du Flying Start, parce que j'avais quand même fait quelques stages avec Erwan Sharpie, Neil Drysdale, et j'avais vu beaucoup de choses de partout dans le monde qui se faisaient. Et après, je pense que l'entraînement, c'est avant tout du bon sens, être à l'écoute des chevaux et surtout s'entourer d'une bonne équipe. C'est la clé du succès d'un entraîneur, c'est toutes les personnes qui sont dévouées à la tâche au quotidien et qui s'occupent des chevaux et qui en prennent soin et qui sont très vigilants. Donc, la clé, c'était de m'entourer de personnes clés. Et c'est ça qui m'a aidé à avoir des résultats au tout début de ma carrière d'entraîneur, quand j'ai pu prendre ma licence publique en mars 2013, avec très peu de chevaux. Mais on essayait de faire pour le mieux, de bidouiller avec des petites valeurs. Et Justin Target était là. Et Sam Hoskins, qui avait fait l'Irish National Stud Course avec moi, m'a beaucoup aidé avec James Reed. Ces deux amis qui, peut-être sans eux et sans leur implication, j'aurais pas été en mesure de pouvoir avoir des chevaux clés en main qui venaient beaucoup d'Angleterre, avec lesquels on a fait quelques. On a gagné des courses. Je crois que Double Power et Kyle Arney, la même année, ils ont dû gagner 13 ou 14 courses à eux deux. Et c'était ça qui nous. Même à un petit niveau, mais on avait arrivé à rentabiliser ces petits investissements. Et du coup, ça a fait que la boule de neige a grossi, et beaucoup de personnes nous ont sollicité et nous sollicitent toujours, puisqu'on a la chance de travailler avec des personnes très fidèles et qui ont été là au tout début et qui sont toujours là avec nous après avoir énormément grossi au fil de ces dernières années.
Il faut dire aussi, c'est que le sud-est de l'époque, enfin, ça, il y a 10 ans, c'est il y a pas longtemps, mais ça n'a plus rien à voir. Le niveau des courses dans le sud-est, il a vraiment changé. Je veux dire, maintenant, ça devient, c'est beaucoup plus difficile, par exemple, qu'à l'époque, de gagner Méden à Marseille. Hein.
Ouais, bah pour reprendre les propos de Jean-Claude Rouget récemment dans la presse, il disait que ses confrères et lui du Sud-Ouest venaient dans le Sud-Est avec la partie courue d'avance. C'était assez facile de déplacer les chevaux et les faire gagner. Et c'est vrai que aujourd'hui, avec des investissements un peu plus importants et une qualité de chevaux qui a énormément augmenté au fil de ces dernières années. On a une qualité de jeunes chevaux dans les Médanes qui est quand même assez intéressante. Et du coup, quand on gagne un Médane dans le sud-est, que ce soit durant le meeting de Cagnes-sur-Mer en période hivernale ou même en courant d'année, on sait qu'on peut avoir un cheval compétitif à un tout autre niveau. Donc, c'est devenu un endroit très très compétitif, et on n'a plus peur de franchir le pas et d'aller en région parisienne pour se heurter aux grandes maisons. Donc, je pense qu'il disait qu'il y avait énormément de professionnels marseillais dans le top 10 en ce début d'année. Bon, c'est en grande partie grâce au meeting de Cagnes-sur-Mer où on est omniprésent. Mais c'est aussi dû à la qualité des chevaux qu'on entraîne dorénavant, quoi.
Est-ce que vous, enfin, c'est une question un peu bête, mais est-ce que vous pensez que le climat en fait marseillais, ça a aussi une influence sur le fait qu'il y a peut-être un peu moins de virus ou c'est une vue de l'esprit?
C'est sûr qu'on a un climat beaucoup moins humide qu'en région parisienne ou à Deauville. Il peut faire très froid l'hiver, mais c'est un froid sec. Après, le printemps arrive bien évidemment plus rapidement que nulle part ailleurs. C'est ce que Jean-Claude Rouget a expérimenté avec le Sud-Ouest pendant des années. Il avait toujours des chevaux qui étaient beaucoup plus avancés au printemps que les Parisiens. Mais après, c'est sûr que quand les grandes machines se mettent en route, des fois, voilà, on peut être un peu moins compétitif par Mais voilà, on verra nos 3 ans s'ils ont le niveau, si un Lazat il a le niveau d'un Djebel, si Fan with Flags a le niveau d'un Cléopard, d'un Fontainebleau ou d'un Guiche ou d'un Prix La Force, on verra. Mais en tout cas, comme on prépare les chevaux en les courant et qu'on franchit les étapes les unes après les autres, on arrive avec des chevaux, un cheval comme Lazat, il ne sait pas ce que c'est de combattre, d'avoir de courses dures. Pour l'instant, tout a été très facile pour lui. Donc, on verra s'il a le niveau. Et c'est ça qui est fascinant et passionnant, c'est qu'à chaque fois, on redistribue les cartes et ça va être un environnement différent. Ça va être un premier long voyage pour lui, ça va être une première fois en ligne droite. Il y a plein d'interrogations et c'est tous ces facteurs qui font qu'on n'est jamais sûr de soi et il y a toujours une partie d'incertitude et c'est ça qui est assez passionnant.
Vous qui êtes un enfant du Sud-Est, vous avez grandi en voyant la Kazakh Séroul être un peu l'Agakan régional. Et ça doit être quand même, d'un point de vue, je dirais, nostalgique, etc., incroyable de se dire que on a grandi en voyant le Kazakh gagner toutes les belles courses locales et un jour être l'entraîneur numéro 1 de cette Kazakh-là. C'est quand même, quand on est attaché à sa région, on a un accomplissement assez particulier, quoi. Enfin, c'est. C'est si on aime, si on est attaché au Sud-Est, être associé à cette Kazakh-là, c'est quand même génial.
Ah bah c'est certain que des personnes comme Monsieur et Madame Seroul, qui est tout autant passionnée que lui et qui l'accompagne tout le temps dans ses déplacements, c'est passionnant de pouvoir entraîner ses chevaux, puisque c'est en grande majorité c'est des produits de son élevage. Donc c'est comme ses bébés qui nous confient. Et avec lesquels il faut faire attention parce qu'on ne peut pas les prendre comme des jouets qu'on maltraite et qu'on jette. Il faut impérativement être à l'écoute. Et dès qu'on a un contretemps, on a tendance à prendre beaucoup de précautions et à ralentir la cadence. Si le vétérinaire nous dit, ah, pendant un mois, il faudrait lever le pied, ben, on va plutôt lever le pied pendant 2 ou 3 mois, plutôt que d'être pressé de réaccélérer. Et c'est ça qui nous fait avoir un taux, je pense, de chevaux élevés, chevaux exploités, chevaux gagnants qui est assez impressionnant. C'est parce qu'on est vraiment attentif à leur évolution. Et c'est quelqu'un de très, très patient. Et du coup, sa patience, des fois, très souvent paye, puisque quand il est venu le moment de les lancer sur des hippodromes, on sait que ce sont des chevaux qui sont pleinement arrivés à un stade de maturité nécessaire et il est temps pour eux de montrer leurs moyens, mais tout en avec beaucoup de précautions et le jockey a toujours les ordres de respecter le cheval les premières courses pour pas lui infliger des combats trop durs, donc c'est ça qui fait qu'on est en mesure de faire durer les chevaux et d'avoir fait une très bonne année de 3 ans l'an dernier en 2023 avec un lot très très homogène et qui pour la plupart en 2024 âgés de 4 ans ils sont très très compétitifs à l'image d'un Splendino, d'une Pienza Ennemie qui a encore gagné sa classe 2 à Marseille ou d'un Isastep qui a encore gagné cette année. On a vraiment des 4 ans qui sont pris comme assez haut en valeur handicap, qui sont un peu barrés en termes de programme, mais qui ne sont pas cuits en termes physiquement et qui répondent présents dès le début d'année parce qu'ils ont été très ménagés peut-être toute leur année de 2 ans et début d'année de 3 ans. Ils sont venus sur le tard et on récupère les fruits de notre attente et notre patience. Ils sont pas soumis au stress très jeunes. La plupart du temps, c'est des pédigrés qui s'y prêtent à attendre. On n'a pas beaucoup de chevaux pour faire 1000 mètres à 2 ans au premier semestre. Donc, on prend le temps avec eux et du coup, on se retrouve un peu en décalé à pas avoir des 2 ans de premier semestre. Mais par la suite, on récolte le fruit de la patience.
Ouais, le sommet là, de votre symbiose, de la symbiose du tandem Séroul-Régnier, c'est quand même Scaletti. Si on regarde le programme de ce choix-là, c'est un peu, je dirais, c'est un peu une œuvre d'art parce que vous avez trouvé toujours les engagements pour repousser le jour du premier combat et il a tellement progressé comme ça, c'est incroyable. Ce choix-là qui avait des problèmes au départ, la progression qu'il a eue et le nombre de victoires qu'il a accumulées, c'est un rêve, quoi, c'est incroyable.
Ouais, bah, à l'époque, il y avait le système des lettres où on pouvait démarrer très bas au niveau G en province, courir une F, courir une D, courir une B avant d'arriver sur des listades. Maintenant, on a tendance à devoir un peu brûler les étapes. Après un Méden, on va directement sur une classe 2 et après, on est un peu contraint et forcé d'aller au niveau listade avec des chevaux qui sont des fois un peu immatures et. Lui, étant donné qu'il a commencé sa carrière très tard, il y avait un programme qui s'y prêtait. Et malgré tout, on a quand même tenté la Riviera avec lui trop tôt. Et ça s'est vu. La première contre-performance qu'il a eue, c'était lors de sa quatrième sortie de mémoire au niveau listade à Cagnes. Et il y avait eu un élément perturbateur d'avant-course qui l'a un peu. Perturbé mentalement et le cheval, on l'avait perdu. Dans la boîte, il s'était énervé. Il avait tiré, tiré, tiré toute la course. Et malgré tout, il avait fini avec une très belle action au poteau en avançant. Donc là, on s'était dit qu'on avait quand même un cheval qui sortait de l'ordinaire parce que n'importe quel cheval qui aurait autant tiré aurait fini au pas. Et donc derrière, on a tout repris. On a repris un programme avec une classe 2 à Chantilly, une autre classe de Longchamp, et après une classe 1, le Grand Prix de Marseille, avant d'aller sur une listade à Vichy, et un groupe 3, le Prix Quincey en fin de meeting à Deauville, et après le Daniel Wildenstein. C'était incroyable de reprendre un cheval qu'on aurait pu rater à cause d'une mauvaise course et une mauvaise leçon. Ben, le fait qu'on ait repris le programme vers le bas et qu'on lui ait donné des tâches faciles en le mettant dernier et en venant passer le peloton. C'était la clé le concernant. Et c'est ça qui l'a fait durer dans le temps et être une machine à gagner.
Je vous remercie infiniment et on croise les doigts pour cette semaine à Medan.
Merci beaucoup.
Dünya kuranlar. peşinde gözü dönenler. Güç ile ül peşinde gözü dönenler.
Paralar uğrunda
yeri öpenler.
Paralar uğrunda yeri öpenler.
Haksız bir gün evet, elbet belli olur. Ben değilim 300 yılda, sen de belli olur. Haksız bir gün elbet, elbet belli olur. Ben değilim 300 yılda, sen de belli olur.
Aşıkların sözü kalır, aşıkların sözü kalır, aşıkların sözü kalır, aşıkların sözü kalır,
aşık kalır.
Kendini kendinden üstün sananlar, kendini kendinden üstün sananlar. Fazla laf ile bomboş fikir saçanlar. Fazla laf ile bomboş fikir saçanlar.